Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jardin Jardin aux Tuileries, l'événement dédié au jardin urbain et à toutes les formes de nature en ville. C'est en effet d'ici, dans ce jardin historique, près du musée du Louvre, que nous émettons aujourd'hui en public, et vous l'entendez peut-être avec les sons de la ville autour de nous, pour cette série d'émissions pour une ville nature, sous l'égide du programme Cité Verte Europe, avec le soutien de l'Union européenne et le relais en France de Valor. Alors quelques mots sur Valor, qui vient de dévoiler une nouvelle identité de marque, c'est l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage. Alors la ville nature, c'est un vocable un peu marketing qui relie des contraires. Et il vise à mobiliser les citoyennes et les citoyens, ainsi que les professionnels, pour obtenir de meilleurs équilibres entre le vivant et la ville. Pour parvenir à cet Eldorado, le savoir-faire, mot important, de femmes et d'hommes est pour le moins requis. Et qui dit nouveau rapport entre la nature et l'urbain, dit nouveau métier et nouvelles compétences. Pour filer la métaphore, ici, dans un jardin qui présente des jardins, parlons de jeunes pousses. Celles qui pensent, qui créent et qui font vivre au quotidien, très important, cette ville nature. Ce n'est pas un hasard, je pense, si cette 17e édition de Jardin Jardin aux Tuileries fait une place de choix aux énergies et aux compétences humaines. Tout d'abord avec le forum Métiers et Emploi, organisé avec le concours et par essentiellement l'Union nationale des entreprises du paysage, avec le jardin de Franck Serra au titre évocateur Human et Sens, avec l'esperluette, ce très joli signe de notre alphabet, mais aussi avec le jardin C'est la santé, qui est un jardin à visée thérapeutique qui mobilise à la fois des compétences jardinières, des compétences agronomes et des médecins et tous des scientifiques de la santé. Et on peut aussi citer l'école dehors, comment faire classe en extérieur. Ça va mobiliser le corps enseignant, des animateurs, au même titre que des jardiniers. Et puis n'oublions pas la présence de l'association CIBI, qui n'est pas du tout pour les nostalgiques des radios dans les poids lourds, mais c'est bien le Conseil international biodiversité et immobilier, s'il vous plaît, qui notamment relie les professionnels de la construction, de l'immobilier, et puis un métier dont nous parlerons tout à l'heure, les écologues urbains. Le titre de notre émission est donc Végétal, paysage, nature en ville, les jeunes pousses qui font la ville nature. Pour en parler, trois intervenants avant de les présenter, générique.
Ville.
Nature.
Végétal.
Architecture.
Quartier.
Paysage.
Biodiversité.
Culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin, aux Tuileries.
Végétal, paysage, nature en ville, les jeunes pousses qui font la ville nature. Pour en parler, nous recevons donc trois intervenants. À ma droite, Rebecca Brio. Bonjour Rebecca, vous êtes ancienne directrice adjointe d'une entreprise de génie écologique, mais vous êtes aujourd'hui recruteuse, fondatrice et dirigeante de l'agence Repair. À ma gauche, Élodie Pain, entrepreneur du paysage, vice-présidente de l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage Île-de-France. Et enfin, à la droite de Rebecca, Jérémy Durand, vous êtes écologue urbain, responsable de l'activité certification dans le cabinet ARP Astrance, administrateur du CIBI, le Conseil international biodiversité et immobilier. Je prends ma respiration parce que nous avons une quarantaine de minutes pour évoquer ce sujet crucial des compétences. Derrière chaque végétal, derrière chaque habitat naturel, urbain, qu'il soit urbain ou non urbain, derrière chaque oiseau, j'ai envie de dire, il y a des femmes et des hommes qui en prennent soin, qui pensent ces espaces. Alors la première question pour chacun de vous, de façon à ce que nos nombreux spectateurs et puis les auditrices et les auditeurs de Radio Territoria et de Radio Immo puissent comprendre le contexte, va être une définition de votre métier. Au quotidien, comment vivez-vous votre activité? Alors je propose de commencer par vous, Élodie. Élodie, vous êtes donc entrepreneur du paysage, vous dirigez la Maison Pain qui a été créée en 1919, si je ne dis pas de bêtises, à Meudon dans les Hauts-de-Seine, le 9-2. Vous êtes la vice-présidente de l'Union nationale des entreprises du paysage. Alors, quel est votre métier à vous? Et puis plus largement, qu'est-ce que les métiers du paysage?
Alors, vaste question. Bon, métier à moi, effectivement, je coordonne l'entreprise avec l'aide de mon mari, qui est effectivement jardinier paysagiste, lui, de formation. Je me suis greffée à l'histoire familiale, mais on gère effectivement une équipe de jardiniers. Donc pour moi, le métier de base, c'est l'entretien et le soin au jardin. Évidemment, la création, l'aménagement. Et de nouveaux métiers sont arrivés, notamment sur la construction paysagère. Et en fonction des demandes, en fait, notre métier évolue. Donc après, autour de ces trois familles pour moi de métiers, il y a effectivement des gens qui conçoivent et qui coordonnent. Donc comme moi, comme Alexandre, et comme des chargés d'affaires, des infographistes, il y a énormément de métiers en amont en fait, de la réalisation. Et évidemment, après, la finalité, c'est de les faire. Et c'est notre cœur de métier. Donc là, vous avez les jardiniers paysagistes classiques, qui est aussi accompagné des lagueurs, puisque les arbres sont aussi un autre métier. Et effectivement, des reboiseurs, des techniciens divers et variés selon ce qu'on a besoin. Donc il y a, par exemple, au niveau des bassins, l'arrosage automatique. Enfin, c'est vraiment... résumer notre métier, c'est compliqué. En fait, il y en a autant qu'il y a de jardins et autant qu'il y aura d'envie. Donc, en fait, on suit les évolutions et les attentes de tout le monde. Voilà.
Donc, pour reformuler, le jardinier paysagiste peut aménager.
Tout à fait.
Il peut entretenir.
Exactement.
Gérer.
Tout à fait.
Aider à...
Le médecin du jardin,
d'accord.
Voilà,
les lagages, donc pour tout le monde, on va couper des branches qui vont déséquilibrer un arbre dans une ville et qui font qu'il peut mettre en danger la voirie, etc. Donc une vaste diversité de métiers.
C'est ça, avec d'autant plus de connaissances à avoir. Donc sur une seule personne, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de plein de gens avec différentes formations et envies et compétences. Parce que du coup, c'est très très vaste.
Alors, on va y venir. Ne soyez pas avare tout à l'heure de faire des annonces et du recrutement. On est là. En plus, on a une double personnalité avec Rebecca qui est aussi recruteuse. Justement, Rebecca. Avant de parler de recrutement, qui sera le sujet de tout à l'heure, votre première activité en date, pas la seule d'ailleurs, mais une de vos activités pendant près de 10 ans, vous avez été la directrice adjointe de Derven, qui est une entreprise bien connue dans le monde du génie écologique, créée par Patrice Valentin, qui, si jamais il écoute le podcast de notre émission, eh bien nous le saluons. Souvenir de réunion il y a quelques années à l'association Auré. Vous avez recruté beaucoup de collaborateurs dans cette entreprise, en gérant les ressources humaines, comme on dit, et puis vous avez décidé de faire du recrutement, justement, votre métier, en créant l'agence Repère au 1er janvier 2022. Donc vous êtes une jeune pousse aussi au sens de la jeunesse de votre entreprise. La première question, c'est qu'est-ce que c'est pour vous que le génie écologique? On a eu les métiers du paysage dans leur ensemble, qu'est-ce que le génie écologique?
Le génie écologique, aujourd'hui, il y a une définition assez connue qui a été établie, qui dit que le génie écologique, ce sont toutes les actions, que ce soit d'études et de travaux, qui aboutissent à la préservation de la biodiversité. Donc ce qui distingue le génie écologique en tant que secteur, c'est vraiment cette finalité pour la préservation de la biodiversité. Donc derrière, ça regroupe des métiers qui, d'ailleurs, il y a de fortes interconnexions avec les métiers du paysage, et ça peut comprendre des métiers du paysage. Ça va de l'observation de la biodiversité, donc vraiment des connaissances naturalistes, à la proposition d'études, de travaux de conception, à la mise en œuvre de travaux. Et puis aussi, il y a toute une dimension de pédagogie et d'animation derrière qui font partie de ces métiers, puisque du coup, quand on préserve la biodiversité, on commence souvent par l'observer et la respecter.
Donc on y reviendra tout à l'heure. Il y a probablement des traits communs, effectivement. Il va falloir rentrer un peu dans le détail pour qu'on puisse se figurer peut-être avec des exemples d'aménagement. On va y revenir juste après. Pour finir ce tour de table, Jérémy. Jérémy, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes écologue urbain. Qu'est-ce que c'est que le métier d'écologue urbain? Est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement écologue? Et quelles seraient pour vous les singularités de la ville, de l'urbain, qui justifie ce titre d'écologue urbain?
Comme vous l'avez dit, effectivement, on est d'abord écologue. Et pour définir écologue, moi, c'est une équation mathématique, c'est assez simple. C'est vivant, habitat et relations. On étudie le vivant, donc la faune, la flore, les habitats dans lesquels il se développe et les interconnexions qu'il y a entre ces entités. L'écologue urbain, donc, comme son nom l'indique, il étudie toutes ces interconnexions entre habitat et vivant dans le milieu urbain, donc des milieux très anthropisés, et c'est aussi des milieux qui sont en constante évolution. on détruit, on reconstruit, on réaménage. Et c'est un peu la spécificité de l'écologue urbain. C'est aussi l'écologie urbaine, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout d'écologie urbaine. Et donc, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Donc, on invente un métier. Et c'est notamment grâce au CIBI, le Conseil international biodiversité et immobilier, qui a lancé cette impulsion de créer le métier d'écologue urbain. L'écologue urbain, pour conclure, il a aussi il y a forcément l'homme dans la ville. Et donc, c'est aussi voir les habitats écologiques, les jardins, comme des espaces de services biophiliques, donc de services d'usage social pour cette humanité qui se développe de plus en plus en ville avec cette urbanisation toujours plus importante.
On va y revenir parce que c'est un sujet parfois à la fois de complémentarité puis de frottement entre les métiers, savoir où on met le curseur. L'homme, évidemment, avec un grand H, je le dis pour tout le monde et nos auditrices en particulier, l'humain fait partie du vivant et toute la question est de savoir où est-ce qu'on positionne le curseur dans les équilibres et dans toutes les services, dans tous les services, vous avez cité le mot service écosystémique, que l'on demande à cette nature en ville. Parfois, il y a des injonctions contradictoires et ça n'est pas tout à fait évident. Vous parliez d'usage, on peut avoir des conflits d'usage et aussi des conflits que, à titre personnel, je trouve parfois un petit peu stériles entre des disciplines, mais nous allons pouvoir l'aborder. Alors, on a planté le décor, on voit que l'écologue va s'intéresser au vivant et à ses interrelations avec une spécificité du milieu urbain où vivent les humains. On voit que le jardinier paysagiste, et j'insiste sur le terme de jardinier parce que pendant longtemps on a parlé de paysage et on a oublié le jardinier qui est quand même un noble mot, va aménager, donc transformer son environnement, surtout dans les environnements urbains, va pouvoir continuer à interagir avec lui pour aider les arbres à vivre en meilleure harmonie avec des contraintes très fortes, je pense à un tramway, et puis à entretenir, on va voir où on met le curseur aussi, et puis le génie écologique qui est de se dire, prenant les connaissances de l'écologue, qu'est-ce qu'on fait pour préserver au maximum et, en tant que de besoin, déployer des stratagèmes pour pouvoir le protéger. On pense plutôt au génie écologique hors de la ville, mais peut-être, on le verra tout à l'heure, qu'il y a aussi des choses dans le domaine de l'urbain. Alors, on a planté le décor maintenant. Il y a une question qui se pose. Faire la ville nature, faire cet oxymore, il y en a beaucoup comme ça, les natures urbaines, l'agriculture urbaine, la biodiversité urbaine, tout ça c'est des contraires qu'on essaie de lier, c'est assez nouveau dans l'échelle des temps historiques. Ma question du coup elle est toute simple, c'est quelles sont les nouvelles compétences? Vous en avez un petit peu parlé Elodie tout à l'heure, d'après vous quelles sont les évolutions que vous avez observées ces dernières années? Et puis, qu'est-ce qui va s'amplifier dans les années à venir sur ce qu'on attend des femmes et des hommes qui s'engagent dans les métiers du paysage?
Alors, pour moi, il y a quand même une compétence qui est là et qui doit rester là, c'est la passion du métier. Je pense que dans tout métier, il faut être passionné pour pouvoir suivre l'évolution et continuer à aimer ce qu'on fait. Et la connaissance, pour nous, c'est vraiment la connaissance du végétal. Et là, c'est vrai que toutes les analyses, toutes les choses qui sont faites... Dans vos autres métiers à vous sont importantes que nous on sache. Après, l'évolution elle est en fonction des innovations aussi qu'on va avoir, des connaissances, des lois aussi qui vont nous imposer certaines choses, faut pas se cacher derrière non plus, mais voilà. Donc il faut constamment s'adapter et donc en fait c'est ça, c'est être polyvalent, savoir se remettre en question régulièrement, pas rester sur des acquis et se dire moi mes grands-parents ils faisaient ça, bon c'est ce qui nous passe chez nous puisque c'est la quatrième génération, donc on a connu le métier de jardinier, pas il y a 100 ans, j'étais pas là encore, mais en tout cas, mon mari a quand même vu ses grands-parents travailler et ce n'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Ne serait-ce que par exemple au niveau de l'horticulture, avant on faisait nos biannuels, maintenant non, on achète, on va à Rungis, enfin voilà, il y a une évolution.
Alors les biannuels, c'est des fleurs que...
Tout à fait, pardon.
Voilà, juste oui. Pour expliquer pour
c'est
tout le monde.
C'est des petites fleurs qu'on plante à l'automne ou au printemps et c'est avant, effectivement, on les faisait, on les fabriquait. Ce qui est compliqué, parce que ça demande énormément de travail. Et aujourd'hui, on ne le fait plus du tout. Enfin, on va les acheter. Voilà. Mais il y a une évolution, quoi qu'il arrive, de nos métiers et qui permettent aussi de nous détacher et de sectoriser nos métiers. L'horticulture, c'est l'horticulture. Un pépiniériste, c'est pépiniériste. Un jardinier, jardinier. Ça permet aussi que chacun revienne au cœur de son métier et se développe et réinvente nos métiers et suive surtout l'évolution de l'écologie, qui est quand même aujourd'hui un vrai sujet... que tout le monde, et notamment les jardins, doivent prendre.
Absolument. Et Laurent Bizot, qu'on salue, le président national de l'UNEP, mobilise beaucoup, et c'est dans la feuille de route de son mandat, sur le sujet de la biodiversité, et notamment avec l'organisme de qualification Qualipaysage, travaille avec l'UPGE, que vous connaissez, Rebecca, l'Union pour les entreprises du génie écologique. Et ça fait le lien, justement, avec vous deux, Rebecca et Jérémy. On va passer des bises annuelles, plutôt d'un jardin décoratif, d'un jardin... assez formelle, assez nouvelle forme de nature en ville. Jérémy, donc vous l'avez dit, vous faites partie des assesseurs du label Biodiversity. Pour vous donner, chères auditrices et chers auditeurs, un chiffre, ils étaient 3 en 2014 à avoir été qualifiés comme tels, et vous êtes aujourd'hui plus de 120.
Tout à fait.
Donc c'est une croissance assez significative du nombre de ces assesseurs, donc ce sont celles et ceux qui accompagnent les entreprises dans la recherche du label pour un projet immobilier donné, mais ce sont aussi autant d'écologues urbains, et ce qui nous permet de parler de développement de ce métier-là. Vous qui pratiquez l'évaluation de projets urbains, de projets immobiliers en particulier, en interaction avec le vivant, quelles compétences sont requises par l'écologue urbain plus spécifiquement?
Oui, tout à fait. Et effectivement, vous parliez d'une évolution croissante assez impressionnante. Nous, chez ARP Astrans, la structure dans laquelle je travaille, en 2 ans, on a recruté 13 personnes. On était 7 à la base. Donc on voit vraiment que c'est un vrai sujet avec des métiers d'écologues urbains derrière. Et en termes de compétences, je pense que déjà, il ne faut pas oublier le bagage scientifique que tout écologue doit avoir, donc une compétence notamment naturaliste, donc pouvoir être en capacité de reconnaître les espèces. L'écologue urbain, il va avoir cette spécialité de devoir parler avec différentes personnes, différents acteurs de la ville, et donc ça va être une agilité dans cette communication, à la fois parler avec... des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, à la fois aussi avec des paysagistes et même en termes de langage en fait, c'est pas du tout les mêmes choses. Pour parler d'une espèce, on va pouvoir parler de son nom latin, de sa variété, etc. Et donc c'est vraiment une agilité dans le langage et aussi de la pédagogie, faire passer son message à des personnes qui il y a 10 ans ne s'intéressaient pas du tout à ces métiers d'écologie. Et finalement, pour finir, c'est vraiment cette agilité de langage, cette pédagogie et finalement cette vision globale, pouvoir comprendre les objectifs et les contrats de chacun pour pouvoir amener le sujet de l'écologie au centre des projets et au centre des réalisations.
Donc au fond, c'est un écologue, mais qui se double d'un pédagogue et qui met à portée de celles et ceux qui sont le plus éloignés, peut-être, en tous les cas dans la caricature, de leurs préoccupations, les bâtisseurs notamment, dont on a dit pendant longtemps qu'ils tournaient le dos à la nature. Alors c'était peut-être un peu fort, mais en tous les cas, ce n'était pas dans leur compétence, de porter à leur connaissance ce que vous faites, en plus d'être scientifiquement compétent et être naturaliste. Au-delà de la compétence scientifique, reconnaître la diversité des êtres vivants, alors on n'est pas obligé de tout reconnaître et on a des outils qui nous y aident, c'est quand même un bagage qui nécessite une connaissance et une pratique significative.
Tout à fait, et d'autant plus que souvent quand on parle de biodiversité, on a en tête, de par notre culture, des grands mammifères, des grands animaux, on va avoir en tête le panda, l'ours blanc, des choses comme ça. L'écologue urbain, il va plutôt traiter de, moi, ce que j'aime appeler la nature ordinaire, la nature invisible, celle qu'on croise finalement tous les jours, même dans nos déplacements métro, boulot, dodo. On en croise forcément de la nature, on n'y fait pas attention. Et c'est vrai que l'écologue urbain, il a aussi cet œil de se dire, bah voilà, même la nature qu'on côtoie tous les jours, qui peut nous paraître insignifiante, elle a son importance, il faut la préserver et il faut la développer.
Et justement, on va le voir juste après, il y a cette nature spontanée,
tout à fait.
Et puis que l'on peut ne pas désirer et apprendre à aimer. Et puis il y a cette nature cultivée dont parlait tout à l'heure Élodie, et faire les équilibres entre tout ce monde n'est pas toujours évident. Rebecca, côté génie écologique, est-ce que c'est plus facile, peut-être un peu provocant de dire ça, mais est-ce qu'on a moins de pédagogie à faire vis-à-vis du maître d'ouvrage, ou c'est la même chose, il faut être compétent sur ses bases scientifiques et avoir une capacité de relation aux autres et d'humilité et de pédagogie?
C'est vraiment les deux, et je rejoins du coup les remarques faites par Élodie et Jérémy, qui ont tous les deux cité en premier des compétences technique et scientifique. Aujourd'hui, dans le recrutement, on parle beaucoup de soft skills. C'est un peu un mot à la mode. On dit qu'on cherche des candidats qui, avant tout, ont des savoir-être. Et là, dans les premières compétences citées, c'était les bases scientifiques, les bases techniques. Mmh. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui à avoir dans ces métiers. Évidemment, faire preuve de pédagogie, etc., on va y venir. Mais avant tout, il faut avoir cet ancrage technique qui est solide. Je vais prendre deux exemples pour rebondir sur une question qui a été un peu évoquée. Par exemple, sur un métier qui joint le génie écologique au métier du paysage. Si on prend le métier d'élagueur grimpeur, l'équivalent un petit peu en version génie écologique, ce serait l'arboriste grimpeur, qui a aussi une mission de diagnostic, d'identification. Voilà, donc il y a des techniques de grimpe, des notions de sécurité, des techniques de reconnaissance de l'arbre. Alors, c'est vraiment des savoir-faire, pour le coup, des compétences techniques. Donc voilà. Et puis un autre exemple, par exemple celui de l'écologue urbain qui va être plus spécialement botaniste, par exemple, il faut pouvoir reconnaître les végétaux, savoir distinguer une espèce exotique envahissante d'une espèce indigène, reconnaître une espèce qui va s'adapter au changement climatique. Voilà, c'est vraiment des compétences qui sont scientifiques. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a cette base technique,
on peut élargir.
Solide, on peut élargir. Et donc là, je rejoins tout ce qui était cité par Jérémy juste avant, cette question d'ouverture d'esprit, de flexibilité. Parce qu'effectivement, oui, ce sont souvent des métiers qui sont exercés par des personnes passionnées, comme l'a dit Élodie, ça c'est important. Mais du coup, qui dit passion, dit parfois idéologie, manière de voir les choses. Donc il faut vraiment, c'est vraiment important de faire preuve d'ouverture d'esprit et de flexibilité. Et j'ajouterai un dernier savoir-être qui est le bon sens. On travaille sur du vivant, il faut se réadapter tout le temps. Il y a vraiment cette notion de bon sens. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de recherches qui est faite aujourd'hui sur ces différents métiers. Mais il y a aussi une question de bon sens et de pratico-pratique.
Et justement, est-ce que ce n'est pas le mouton à cinq pattes à chaque fois qu'on cherche et qui expliquerait aussi les difficultés de recrutement qui est un sujet récurrent? C'est-à-dire qu'on a besoin de compétences techniques fortes. On peut travailler en extérieur par tous les temps. Je pense qu'Élodie, c'est quand même un facteur de la passion doit être forte. On l'a vu ici aux Tuileries hier, pour des gens qui sont moins liés aux aléas du climat, c'est tout de suite très compliqué d'affronter la pluie, notamment. Un jardinier ou un jardinier dans le génie écologique, on ne lui pose pas la question. Il doit travailler par tous les temps. Alors évidemment, on va s'adapter, mais c'est ce que vous disiez, Rebecca, il faut sans cesse changer de pied. Mais avoir ses fondamentaux techniques, une rudesse parfois dans le métier. Et en plus, il faut être pédagogue, ouvert sur les autres disciplines, on va le voir, sur nos clients. Comment est-ce qu'on résout cette équation? C'est impossible ou...
Je pense que c'est pas tellement des moutons à cinq pattes parce que en fait ces candidats-là, ils existent aujourd'hui. C'est-à-dire que côté candidats, en fait, on a tout un changement de génération aussi où les candidats aujourd'hui sont preneurs en fait de cette transversalité et veulent justement avoir plusieurs cordes à leur arc. C'est plutôt une nouvelle espèce de mouton qu'on a du mal à identifier parce que c'est des métiers qui sont très récents et qui sont en pleine évolution. Il y a des référentiels de formation d'ailleurs qui sont en plein cours de construction, notamment par l'Union professionnelle du génie écologique et aussi l'UNEP. Donc c'est des formations qui évoluent. Donc en fait, côté candidat, on n'a pas encore une vision très claire de ces nouveaux métiers. Et côté employeur, on ne sait pas encore où aller chercher les candidats qui répondent. Donc je pense, pas des moutons à cinq pattes. Enfin, si c'est des moutons à cinq pattes, mais ils existent, mais c'est une nouvelle
Et il faut les qualifier maintenant, il faut leur donner un cadre et un nom. Entendu.
Et puis il faut aussi participer à leur formation, parce qu'en fait, il faut accepter aussi de participer en fait, à la définition de ces nouveaux métiers. Donc c'est vrai que c'est ça qui est compliqué pour les entreprises, quoi. C'est qu'elles participent à cette nouvelle définition.
Alors, on a parlé de l'écologue, du paysagiste concepteur en creux, qui est encore un autre métier. Parfois, l'entreprise du paysage peut intégrer un concepteur. Parfois, dans les grands projets, notamment les grands projets urbains ou les projets immobiliers, il y a le paysagiste concepteur, le maître d'œuvre. Vous avez cité la maîtrise d'œuvre, l'architecte, le paysagiste concepteur, l'urbaniste, etc. L'entreprise de travaux, qu'elle soit de génie écologique ou de paysage, le jardinier, pourquoi pas l'animateur nature ou le jardinier animateur, le jardinier gestionnaire, celui qui réalise l'entretien des jardins ou d'espaces de nature en ville, à toutes les échelles, du bâtiment au quartier, le producteur de végétaux, ça a été évoqué, le fabricant de procédés de végétalisation, c'est un peu moche, mais on n'a pas trouvé d'autres mots, et je ne parle pas des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient particuliers, je crois que la Maison Pain travaille beaucoup avec des particuliers, des collectivités, ou des professionnels de la construction, de l'immobilier, qui peuvent avoir des formations très diverses. Les formes juridiques des entreprises qui emploient ces forces vives, elles sont extrêmement diverses. Il y a des grands groupes, des PME, beaucoup, 100 000 actifs dans les métiers du paysage pour 30 000 entreprises. Donc ça vous donne un peu le ratio et plus de 70% qui ont moins de 3 salariés, c'est ça, à peu près, Elodie, je dis bon, voilà. Donc vous voyez la diversité en fait, il y a des géants et plein d'acteurs, il y a aussi des entreprises unipersonnelles, des coopératives qui se développent beaucoup. Et puis, je lis parce que je ne veux oublier personne, sans oublier les structures d'insertion par l'activité économique. C'était aussi un des enjeux du projet de Patrice Valentin à l'origine. Et puis, on doit aussi citer les associations de protection de la nature. Ça fait beaucoup de monde pour un même sujet, et c'est très bien. C'est la richesse de cet écosystème, si on peut utiliser ce mot. Je parlais de frottement tout à l'heure. Les formations sont différentes. On va le tourner de manière positive. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des complémentarités entre vos métiers ? En mettant en avant le positif et puis aussi ce qui marche moins bien et comment on peut faire pour aller plus loin. Allez, qui veut prendre ce sujet ? Rebecca.
Je veux bien, on a besoin de cette complémentarité. Je pense qu'il y a eu, oui, effectivement, il y a parfois frottement parce qu'en plus on se chiffonne un peu sur les termes parce qu'on arrive chacun avec son point de vue et sa clé d'entrée. Il y a complètement besoin de cette complémentarité parce que ce sont pas forcément les mêmes compétences tout à fait et c'est pas la même finalité derrière. Donc c'est complètement intéressant de marier une finalité qui repose sur la préservation de la biodiversité avec les usages. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre ou n'exclut pas l'autre. Et on a besoin du regard très scientifique, rigoureux de l'écologue, pour caricaturer un petit peu, et des compétences de design, de conception du maître d'œuvre paysagiste. Donc on a complètement besoin de cette complémentarité. On commence à le voir d'ailleurs aujourd'hui beaucoup, alors surtout côté entreprise de génie écologique et notamment bureau d'études écologues, on voit beaucoup de bureaux d'études écologues qui embauchent aujourd'hui des paysagistes pour ajouter cette compétence dans leur équipe.
D'accord. Jérémy.
Ouais, tout à fait. Je rebondis sur ce que dit Rebecca. Nous, chez ARP Astrance, on a une offre d'éco-paysage. Donc on a fait le choix de prendre des paysagistes formés à l'écologie et pour pouvoir proposer une offre de conception et de réalisation qui prennent purement en compte les sujets écologiques. Et je pense qu'il y a à la fois, finalement, ce flou, on entend beaucoup de mots valises, où il y a des mix de métiers. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu flou. Et à la fois, on l'a évoqué, il y a des spécialisations. On va avoir des écologues urbains qui vont être purement sur les plantes, donc des botanistes. Donc c'est un peu ça. C'est soit on se diversifie, on met un flou entre les métiers, soit au contraire, on va venir se spécialiser.
Se spécialiser et apprendre
pour répondre
à dialoguer.
Voilà, à des sujets bien précis. Et le but de tout ça, c'est que finalement, qu'on soit très spécialisé ou un peu plus général, on puisse communiquer ensemble, que ce soit avec un paysagiste, un écologue, une maîtrise d'ouvrage ou autre.
Alors, Elodie, dans les clients de la Maison Pain, là, je prends la casquette de l'entrepreneuse, est-ce que les problématiques de biodiversité sont souvent posées par les particuliers que vous avez ? Est-ce que ça commence ou est-ce que ça reste une préoccupation de second plan ?
C'est le mauvais rôle, moi. Je passe
non, il n'y a pas de mauvais rôle. Il n'y a pas de mauvais rôle, sinon je ne vous pose pas la question.
Je suis complètement d'accord avec ce qu'ils disent tous les deux. Je ne vois pas de frottement. Enfin, au contraire, je pense que... il ne faut pas s'éloigner les uns des autres, au contraire, parce que le but final est quand même le même pour tout le monde. Nous, on a juste un truc en plus, c'est le client qui est forcément un peu exigeant et des fois difficile à faire comprendre certaines choses. Ils sont complètement d'accord sur l'écologie, complètement d'accord qu'il faut utiliser moins sa voiture, il faut être hyper dans les déchets. Mais c'est vrai que pour le jardin, les mauvaises herbes, les adventices, les fameux, ça passe toujours pas, quoi. Et on a beau leur dire que là, c'est terminé, les produits phyto, c'est fini. Et nous, on est très contents parce qu'on a quand même aussi beaucoup de problèmes de santé derrière sur les jardiniers qui ont utilisé ces produits. Et je suis ravie que ça s'arrête. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une vraie éducation et une vraie information encore à faire. Et nous, sur le terrain, on le fait. Maintenant, ça reste compliqué parce qu'on n'est encore pas très légitime en étant jardinier, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un métier quand même qui a été bien dénigré pendant toutes ces années. On était simplement des poustondeuses. On est quand même la finalité et la création de tout ce que vous avez comme connaissance environnementale, technique. C'est le jardinier. Après, à la fin, la finalité, c'est lui. Et c'est lui le plus important parce que s'il ne le fait pas derrière, vous avez beau écrire tout ce que vous voulez, ça se fera pas. Et donc, nous, on a un vrai sujet après, effectivement, à faire passer le message aux clients. On le fait. Mais je pense qu'en étant tous ensemble dans le même sens, ça avancera. C'est une éducation pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à être dans le même sens.
Donc, partager un langage commun et puis aussi apprendre à parler, apprendre à prendre la parole ensemble auprès des clients. Pourquoi pas une démonstration avec un jardin aux Tuileries pour la, qui sait, 18e édition de l'année prochaine, qui serait co-conçue entre des écologues urbains spécialistes, avec pourquoi pas des spécialistes de la botanique, d'autres de l'entomologie, des ornithologues pour les oiseaux. Et puis un paysagiste concepteur avec cette vision d'ensemblier, un entrepreneur du paysage qui travaillerait avec un professionnel du génie écologique, chiche.
Moi je dirais même en plus de rajouter, c'est parce qu'on n'en a pas parlé, mais enfin, je suis très sur la base de notre métier d'entretien et de soins. Je pense que les paysagistes c'est une chose, c'est celui qui va concevoir, mais celui qui va entretenir le jardin a encore un autre œil. Mmh. Et c'est vraiment ce jardinier pour moi qui aime son métier, qui connaît les plantes et qui sait comment va évoluer le jardin. Il n'est jamais mis dans cette boucle-là et je pense que ce serait important d'avoir une personne comme ça parce que le paysagiste, il va créer, il vient de façon spot et il s'en va. Sauf que le jardinier, lui, il est là au quotidien, il voit les saisons, il voit l'évolution du jardin. Et dans la conception d'un jardin, c'est souvent nous ce qu'on voit parce qu'on en conçoit, mais on travaille beaucoup avec des paysagistes effectivement extérieurs à notre entreprise. Et après, nous, on fait le jardin, qui est génial en premier lieu. Mais après, c'est vrai que l'évolution du jardin, bah, en fonction des paysagistes, on se dit « bon, lui... » pas fait trop d'entretien parce que du coup ça va être galère. Donc c'est vraiment ça pour moi, il y a le cœur du métier qui on s'éloigne un peu avec tous ces sujets-là et je pense qu'il faut recentrer aussi sur ce métier-là qui pour moi va diffuser vos connaissances quoi.
Et puis le métier de jardinier d'entretien c'est aussi un très fort impact sur la biodiversité, toute la gestion. On peut avoir une très belle conception si elle est gérée de façon pas du tout écologique, ça va plus du tout dans le bon sens et c'est vrai qu'il faut remettre au cœur de cette filière le jardinier qui met la main à la pâte pour l'entretien.
Rebecca, vous confirmez ?
Tout à fait, j'allais dire qu'il y a effectivement la vision concrète, réelle en fait de ce que ça donne sur place, c'est vrai.
Et du bon sens qui peut aider d'ailleurs à concevoir et à essayer de définir au préalable le bon niveau de gestion future pour réduire la pression sur les milieux. Alors on parle de perturbation écologique, j'aime souvent parler de ce mot-là. La perturbation n'est pas une destruction, elle peut être saine pour garder un milieu ouvert, c'est pas forcément négatif. Mais il y a une gestion, si faible soit-elle, et est-ce qu'elle ne permet pas aussi de faire passer des messages aux clients quand on différencie les tontes par exemple, qu'on est moins pousse-tondeuse tout le temps parce qu'on veut être moins gourmand en eau, moins sélectif sur l'espèce de raie gras qu'on va implanter, est-ce que ça commence à pointer ou c'est encore un long chemin ?
C'est pas un long chemin. Bon, après, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, comme les robotontes, hein, qui font que du coup le pousse-tondeuse devient automatique. Donc ça va.
Est-ce qu'on déplace pas le sujet aussi un peu ?
Alors, on déplace, oui et non. Je pense que. Alors, le retour écologique, j'avoue que je suis pas assez experte dans la matière pour me dire si un gars avec sa tondeuse qui met du gasoil dedans et un robot est plus écologique que l'un ou l'autre. En attendant, nous, ça nous permet effectivement de nous dégager du temps pour faire d'autres choses qui sont peut-être plus intéressantes sur un jardin que finalement tondre une pelouse qu'un robot peut faire très simplement. Donc ça en fait ça valorise aussi les fameux pousses tondeuses se transforment en gars, bah en fait oui, on a besoin de toi sur autre chose que de pousser la tondeuse et du coup ça valorise aussi nos métiers comme ça terrain qui sont pas forcément enfin voilà, pousser la tondeuse c'est pas on est content du résultat mais il y a d'autres choses à faire dans un jardin qui sont importantes et du coup, pour la biodiversité, tout ça, enfin, voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut se développer.
Alors justement, il y a d'autres choses à faire que de pousser la tondeuse. Et ouais. On a besoin de bras, de cerveau et de mains, de tout ça pour le faire, la tête et les jambes, vieille émission, pour concrétiser cette ambition de ville plus verte. Quel que soit le niveau d'usage ou le niveau de biodiversité, l'ambition que l'on a pour procurer tous ces services, notamment dans un autre sujet qui est celui de l'adaptation de la ville au changement climatique. On parle régulièrement sur cette antenne d'infrastructures vertes, encore un autre sujet connexe. Les bénéfices pour le bien-être et la santé ont été cités pour chacun, individuellement, mais aussi dans le lien collectif. Bref, la liste peut être longue. On a besoin de compétences. Vous les avez posées, mais aussi tout simplement d'effectifs. Je vais simplement citer les chiffres qu'indique l'UNEP dans un communiqué récent. Avec 170 000 talents qui participent au rayonnement d'un secteur en pleine expansion, la filière, d'une manière générale, du végétal, sans le génie écologique, je pense, et sans les écologues urbains, recrutent plus que jamais. Plus de 11 600 postes sont à pourvoir dans toute la France en 2022. 11 600 postes, dont 1350 offres d'emploi tout de suite maintenant en Île-de-France. Chez ARP Astrance, c'est le moment de passer un message. Et vos confrères, je crois que c'est la même chose, concurrents et confrères. Combien de postes est-ce que vous cherchez en ce moment ?
Aujourd'hui, sur l'écologie urbaine, on cherche deux postes. Donc, comme on l'a dit, avec des compétences diverses, également de management, mais de compétences scientifiques, pour avoir cette vision globale, pour pouvoir accompagner nos clients à intégrer les sujets de biodiversité.
Rebecca, vous qui avez fait de votre métier le recrutement. Quelle perspective vous voyez? Quel est le niveau de la demande dans ces métiers-là avec lesquels vous gardez peut-être toujours un lien?
Le niveau de la demande est fort, d'autant plus que c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées en génie écologique. Mmh. Ça, c'est plutôt un petit secteur, ça reste quand même une petite niche, mais c'est des métiers et des compétences qui vont toucher de plus en plus de métiers pour des entreprises qui sont dans certains secteurs qui cherchent à les intégrer. Donc, je n'ai pas de chiffres clés à vous sortir là. Mais ce qui est sûr, c'est
que
ça bouge. Et ce qui est sûr, c'est que c'est en pleine évolution. Et déjà, quand on compare le secteur aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, c'est complètement différent, tant en termes de niveau que de termes d'offre d'emploi. Et ce qui est sûr, c'est que du coup, il y a de l'avenir dans ces métiers. Donc, on risque la bonne nouvelle pour ceux qui cherchent, qui prennent un poste aujourd'hui, y compris sur des choses assez spécialisées. Il y a de l'avenir. On peut facilement ajouter une corde à son arc. Voilà, c'est des métiers d'avenir et ça bouge.
Donc, on parlait d'exemple tout à l'heure. Pour bien reformuler ce que vous dites, le génie écologique est un secteur relativement bien circonscrit. Restaurer une berge d'un fleuve, ça peut être un exemple. Qu'est-ce que vous pouvez citer comme exemple de génie écologique?
Restaurer une berge d'un fleuve, restaurer une zone humide ou entretenir une zone humide, parce qu'effectivement, il y a une grande partie des actions de génie écologique qui sont de l'entretien. Et en fait, dans le génie écologique, à la rigueur, moins l'homme en fait, mieux l'écosystème se porte. Donc, il y a une grosse partie qui est liée à l'entretien. Et donc, on peut aussi imaginer, il y a des métiers un petit peu hybrides entre l'entretien et l'observation, c'est-à-dire un ouvrier de génie écologique qui est aussi observateur, technicien naturaliste qui va faire des suivis lorsqu'il vient entretenir une zone.
D'accord. Et les métiers connexes qui recrutent les mêmes compétences que le génie écologique, quels sont-ils par exemple? C'est les métiers du paysage? C'est des cabinets de conseil?
Ouais, c'est les deux que vous venez de citer. C'est aussi des métiers, tout ce qui est dans l'animation pédagogique, parce qu'on voit de plus en plus d'animation autour de la nature, que ce soit des classes vertes pour les enfants, au parcours pour les adultes, aux vacances, avec un thème biodiversité. Donc tous les métiers vraiment de l'animation, tout ce qui est lié au sport aussi, ça peut être un autre exemple de secteur.
Alors ça recrute, pour le dire simplement, mais ça, on a du mal à combler le déficit d'effectifs. L'UNEP, à nouveau, Élodie, je le lis, ça vous évite de le dire. Les entreprises embauchent, mais peinent à trouver les nouveaux talents. Une pénurie de candidats qui concerne environ 6 sociétés sur 10 aujourd'hui. Alors, la dernière minute ou minute 30 chacun pour convaincre, vous savez, c'est comme les candidats dans les débats avant les élections. D'après vous, quels seraient les arguments pour convaincre les talents que vous visez les uns et les autres de rejoindre vos secteurs d'activité, cette grande famille des métiers du vivant? Qui se lance?
Allez, je me lance. L'écologue urbain, on est dans un moment particulier. On est en train de réinventer la ville. On invente la ville de demain pour mieux y vivre. Et l'écologue doit prendre part à cette réinvention de la ville. Et donc, on a la chance d'être dans un secteur qui bouge et on a la chance d'être écouté. Il y a 10 ans, l'écologue, on le faisait passer si on avait le temps, si on avait un peu d'argent. Aujourd'hui, c'est indispensable sur un projet, sur une réalisation, d'avoir un point de vue écologique et un écologue. Donc, ça bouge et en plus, on est écouté. Donc, pour moi, c'est tout bénef pour rejoindre les rangs des écologues urbains, parce que voilà, notre métier va faire sens, va avoir un impact et donc on va être écouté. Et ça, je pense que c'est une chose importante pour un métier.
On est écouté et on peut réinventer la ville. Rien de moins. Élodie,
Je vais changer de métier. Je vais devenir écologue. Voilà, c'est décidé.
Et ça ne va pas résoudre vos sujets. Mais non, bon, c'est l'hybridation. C'est parfait.
Je m'en vais. Effectivement, moi, je vois nos métiers comme d'intérêt public, en fait. C'est l'environnement. Donc, c'est notre terre. C'est là où on habite. C'est là où on vit. D'autant plus avec le Covid où tout le monde a redécouvert un jardin, c'est formidable. Il faut être dehors parce qu'on n'est pas fait pour être dedans, ni enfermé. Donc, c'est des beaux métiers qui ont un vrai sens, qui ont vraiment du sens. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de reconversions professionnelles qui ont malheureusement leurs limites parce que les gens arrivent un peu tard. Et du coup, c'est vrai que c'est des métiers qui restent assez physiques, en tout cas sur le terrain. Après, il y en a tellement d'autres à côté qu'on prend tout le monde, hein, toutes les forces vives et ceux qui sont motivés. Après, c'est un métier, enfin c'est une filière, c'est même plus un métier, il y en a tellement de métiers que vous pouvez commencer simple ouvrier, finir chef d'entreprise, donc votre métier va changer en fonction de ce que vous avez envie, si vous voulez vous spécialiser dans l'arrosage, si vous avez envie de faire des terrasses en bois, si vous avez envie de travailler un peu plus dans la biodiversité, bah voilà, développer des jardins potagers, enfin voilà, il y a vraiment, on travaille avec du vivant, et donc en fait c'est ça qui est bien, c'est que le vivant, bah, il y a tellement de vivant qu'on peut faire n'importe quel métier et s'orienter sur telle ou telle filière. Après, il y a quand même un problème de, je pense, de rémunération peut-être, qui peut poser un problème, notamment sur l'entrée des ouvriers dans notre secteur, même si l'UNEP a bien favorisé ça. On a fait des revalorisations de salaire au-delà de ce que les syndicats voulaient. Donc, on montre bien que les entreprises, déjà de base, payent plus que ce qu'elles devraient. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet sur ces métiers-là qui sont physiques, qui sont difficiles, forcément. Et je pense qu'il faut valoriser tout ça. C'est pas forcément le cas. Et les entreprises, bah, on est au taquet. Hein. On peut difficilement faire plus sans que les pouvoirs publics nous aident un peu. Je sais pas, j'ai des petites idées dans ma tête de reverser un peu les charges patronales aux salariés. Comme ça, au moins, voilà, on payera pareil. Mais ça ira vraiment aux personnes qui font avancer nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on vit avec nos salariés. Et c'est eux qui font vivre aussi notre entreprise. Et aujourd'hui, le problème de recrutement, bah, c'est malheureux. Mais du coup, nos entreprises sont freinées dans leur évolution. Moi, je le vois avec la nôtre, on est une dizaine, on a vu passer peut-être 40 personnes, donc si on les avait tous pris aujourd'hui, on serait une boîte de 60, quoi. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Après, pourquoi venir dans nos métiers ? Ouais, je pense que c'est vraiment, c'est un métier de passion, donc je pense qu'après, c'est vraiment la base. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas oublier, c'est ce qui donne aussi un attrait, il faut que les femmes aussi viennent nous rejoindre. Avec toutes les évolutions, les innovations, il y a aussi beaucoup de choses qui... Notre métier a changé, il est moins physique qu'avant. Et puis, il y a tout ce qui se développe au niveau de la biodiversité, de la création, du management, effectivement. Donc, on a besoin de plein de gens différents. C'est pour ça que le recrutement est compliqué, quoi.
Alors, la mixité, la diversité des métiers, la valeur, ça, c'est un sujet important. On en parle souvent, y compris dans les métiers du nettoyage. Je renvoie à nouveau pour nos auditrices et nos auditeurs à la lecture d'Uzbek Erika, le magazine qui explore le futur, qui titrait en janvier 2022 son trimestriel sur l'ère de la maintenance. Et si la maintenance n'était plus invisibilisée, si toutes les femmes et les hommes qui font que notre environnement est propre, nos villes sont propres, nos écosystèmes sont maintenus en équilibre, eh bien, si on les montrait, on pourrait innover fortement en étant plus dans la frugalité, puisque l'innovation consomme énormément de ressources, énormément de ressources financières pour des choses qui parfois sont assez fugaces, ce qui est un peu une gabegie. Donc, la valorisation des métiers et le consentement que collectivement, public ou privé, nous sommes prêts à payer, je pense que c'est une question forte, mais vous l'avez démontré pour celles et ceux qui seraient décideurs et qui ont envie d'avoir un espace de nature en ville, les valeurs et la valeur qui est générée par ces métiers sont extrêmement fortes puisqu'elles dépassent le simple cadre technique. Ce sont aussi des œuvres de pédagogie et de transmettre cette passion que vous avez citée à plusieurs reprises les uns et les autres. Et pour que vous puissiez conclure, Rebecca, je voudrais vous interroger sur le sens. Élodie a dit ce sont des métiers qui ont du sens. Vous avez cité la crise sanitaire comme étant un moment de remise en question. Je pense que tout le monde, quelle que soit la continuité ou les ruptures dans son parcours professionnel, s'est posé à un moment donné la question du sens, peut-être de manière exacerbée. En quoi est-ce que ces métiers ont du sens et en quoi est-ce que ça peut être un argument pour les rejoindre?
Alors, Élodie en a déjà dit beaucoup sur la finalité et le sens, et je la rejoins. Il y a plein de mots-clés qui ont été dits, on participe, il y a les mots-clés bien commun de la nature, le bien-être des gens, donc c'est des mots-clés hyper importants. Et moi, je finirais sur le mot-clé concret. C'est-à-dire que oui, ce sont des métiers qui ont du sens, et en fait, on peut le voir concrètement. Là, aujourd'hui, on a la chance d'être dans un cadre où on voit des réalisations concrètes d'entreprises, et que ce soit le jardinier ou l'écologue urbain, en fait, on peut voir très rapidement le résultat des actions, que ce soit des actions directement sur le terrain ou de conception. Et d'ailleurs, j'invite les entreprises qui ont du mal à recruter à mettre en fait des photos de leurs réalisations ou des exemples, parce que du coup, vous avez de la chance d'être dans un secteur où on peut montrer des exemples concrets, et ça peut faire la différence pour attirer des candidats.
Eh bien voilà, je vous invite à aller voir les photos, notamment sur internet, des réalisations, notamment du Conseil international biodiversité et immobilier, aussi les portraits des femmes et des hommes qui composent les métiers de la biodiversité urbaine. La même chose pour l'UNEP, et il y aura beaucoup de photos sur les internets de Humanescence, la réalisation de Franck Serra, maître jardinier. Merci à toutes et à tous. Cette émission Cité Verte Europe, avec le soutien de l'Union européenne, organisée par Valor, l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage. Nous étions en présence d'Élodie Pain, entrepreneur du paysage, vice-présidente de l'Union nationale des entreprises du paysage, de Rebecca Brio, qui a eu un parcours notamment dans le génie écologique et est maintenant recruteuse ou recruteur, je ne sais pas comment on l'accorde.
Les deux
vous vont, agence Repère. Et puis enfin, last but not least, Jérémy, qui est écologue urbain au sein d'ARP Astrans et administrateur de l'association CIBI, le conseil que nous avons cité à l'instant. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout restons en lien via les podcasts sur radio.imo et radioterritoria.fr.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union européenne. À retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.